Voilà, comme d'habitude, je commence par une citation du pape François. Bonjour. Voilà, merci en tout cas d'avoir répondu comme chaque année, un peu plus tôt que d'habitude, je crois. D'habitude, c'est plutôt début octobre, là c'est fin septembre, mais ma foi, on est toujours heureux de se retrouver ici à Salis, toujours en effet bien accueillis, pour cette journée de rentrée des catéchistes, qui est... Les catéchistes ont une importance très forte dans le diocèse, car c'est à eux, avec les prêtres, qui sont les premiers catéchistes de leur paroisse, comme l'évêque est le premier catéchiste du diocèse, qui sont appelés, donc, qui reçoivent la mission de transmettre la foi. On est dans la transmission. Et on sait bien que transmettre la foi, ça suppose avoir la foi. Le don que nous avons reçu au baptême, et que nous avons toujours besoin de faire grandir nous-mêmes. Vous rappelez toujours, comme on le répète, mais je le redis aujourd'hui, le jour du baptême, le prêtre, le ministre de l'Église, interroge les parents, comme il interrogera les adultes qui demandent le baptême. Et il leur demande « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Et on répond « La foi ». Qu'est-ce que nous demandons à l'Église lorsqu'on vient faire baptiser un petit enfant ou lorsque l'on est adulte et que l'on demande le baptême? On demande la foi. Parce que la foi, nous la recevons comme un don de Dieu au jour de notre baptême. Et le prêtre renchérit et il dit « Et que procure la foi ?» La réussite aux examens, une bonne situation... une bonne entente avec un bien vivre ensemble. Non, non. La vie éternelle. Toute notre vie se situe entre ce don initial de la foi au jour du baptême et la vie éternelle. Encore faut-il que la foi grandisse. Encore faut-il que la foi devienne adulte. Encore faut-il que la foi soit source d'espérance et de charité. Vous voyez ? Ce qui caractérise le chrétien, ce n'est pas l'amour du prochain. Ça, c'est le fruit. C'est le fruit excellent de la foi. Mais si la charité ne s'enracine pas dans la foi qui nous unit à Dieu, alors il n'y a pas de charité vraie et authentique. Il n'y aura que des ersatz de charité qui sont visibles dans le monde, et c'est aussi des fruits de l'Esprit Saint, hein, j'entends bien. Mais la charité authentique naît de la foi, qui nous relie à un Dieu vivant, un Dieu d'amour, qui nous communique cet amour. Parce que nous ne pouvons pas aimer par nous-mêmes. Nous voyons bien dans notre vie que nous en sommes incapables. Nous aimons toujours de manière sélective. Nous aimons toujours de manière partielle ou partiale. Mais nous n'aimons pas de manière universelle. Ça n'est possible jusqu'à aimer ceux qui ne sont pas aimables, jusqu'à aimer nos ennemis comme Jésus nous l'invite, nous le commande dans l'Évangile, que si nous sommes reliés à Jésus par la foi. La foi, c'est un don qu'il faut faire grandir. Alors aujourd'hui, en vous disant tout cela, je suis invité, je crois, par le service de la catéchèse à vous parler du jubilé de 2025, cette année jubilaire. Vous savez que le pape a, comme tous les 25 ans, de manière ordinaire, a écrit une bulle, ça s'appelle une bulle d'indiction du jubilé ordinaire de l'année 2025, qui s'appelle Spes non confundit. Spes non confundit, ça veut dire l'espérance ne déçoit pas. Et il entend que cette année jubilaire soit placée précisément sous le signe de l'espérance. Et le thème précis, c'est « pèlerin de l'espérance ». Car comme il va nous le dire, le pèlerinage est une des réalités fondamentales d'une année jubilaire. Le jubilé, ça s'appelle une année sainte. Ça rappelle, vous savez, ce que Jésus dit dans l'Évangile lorsqu'il s'applique à lui-même l'oracle du prophète Isaïe, lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction » et il m'a envoyé annoncer l'évangile aux pauvres, et il dit, pour terminer, annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. L'Église a compris dans sa pédagogie, dans son pèlerinage à travers l'histoire, comme dit saint Augustin, entre les persécutions du monde et les consolations de Dieu vers le royaume des cieux, a compris que nous avions besoin de moments forts, de temps forts en Église, pour progresser sur ce chemin. D'ailleurs, quand on parle d'une année sainte, on prononce le mot « saint ». C'est une année où on prend conscience davantage que depuis le jour de notre baptême, nous sommes appelés à devenir des saints. J'aime à dire, et je le répète, c'est le pape saint Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique au début du nouveau millénaire, « Novo Millennium Ineunte », qu'il a signé le 6 janvier 2001, au terme du grand jubilé de l'an 2000, vous vous rappelez, pour la plupart d'entre vous sans doute quand même, oui, le grand jubilé de l'an 2000, il y a donc 25 ans, c'était à la fois un jubilé ordinaire, comme tous les 25 ans, mais c'était aussi un jubilé plus extraordinaire parce que nous célébrions le 2000 anniversaire, le 2000e anniversaire de l'incarnation. Et il dit dans cette lettre, il faut que tout chemin pastoral se situe dans la perspective de la sainteté. Il faut que tout le chemin pastoral, quel qu'il soit, tous les programmes pastoraux que nous avons au début d'une année pastorale, au début d'une année de transmission de la foi par la catéchèse, se situe dans la perspective de la sainteté. Se rappeler que nous sommes appelés à être des saints. Une année sainte, c'est une année qui, à travers tout ce qui nous sera proposé, nous aide à nous sanctifier. Le baptême nous a sanctifiés, a fait de nous des saints. Quand saint Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, aux chrétiens de Rome, aux chrétiens de Galatie, de Thessalonique, il parle aux chrétiens qui sont des saints, parce qu'ils ont été sanctifiés par la grâce du Christ, la grâce de l'Esprit-Saint, à travers le baptême précisément. Et que nous sommes appelés à devenir par un chemin de croissance qui n'est pas sans chute, qui n'est pas sans difficulté, sans épreuve, sans combat spirituel, qui nous mène à la sainteté définitive. Et c'est pourquoi pendant l'année sainte, tout en regardant cet objectif et en essayant de refaire que le programme pastoral que nous nous donnons dans nos paroisses et dans le diocèse soit vraiment d'aider les fidèles à devenir des saints, nous avons besoin du témoignage des saints. Nous avons besoin du témoignage des saints. C'est une année pour faire connaissance avec des saints qui ne sont pas nés sous une meilleure étoile que nous, qui bien souvent ont connu des épreuves, même des commencements de vie qui n'étaient pas porteurs et qui ne les auraient pas conduits spontanément à la sainteté. Ils ne sont pas tous nés comme des petites images d'Épinal, sanctifiés dès leur plus jeune âge. Regardez saint Augustin, il a mis du temps à comprendre qu'il était appelé à devenir un saint et d'abord à être baptisé pour devenir un saint. Charles de Foucault, saint Charles de Foucault, il a mis du temps aussi. Et saint Paul, c'était un meurtrier. C'était un meurtrier. Et Dieu en a fait, Jésus en a fait un des plus grands saints de l'humanité. Saint-Pierre, c'était un renégat. Nous ne sommes pas nécessairement nés sous une bonne étoile. Et pourtant, c'est important quand même, surtout dans le monde d'aujourd'hui, comme qui est un monde d'une certaine manière néo-païen, c'est important que les enfants soient baptisés le plus tôt possible. C'est important que la foi leur soit transmise dès le plus jeune âge au sein de la famille. C'est important que l'Église prenne le relais des parents pour les sanctifier, les évangéliser, les sanctifier, les conduire vers la sainteté. C'est le grand défi qui se présente à nous dans votre mission. C'est le grand défi qui se présente à l'Église lorsqu'elle entre dans cette année sainte. Pour devenir des saints, je répète, tout chemin pastoral. Vous commencez votre mission, vous allez avoir quelques enfants avec vous, Tout chemin pastoral doit se situer dans la perspective de la sainteté. En ce sens, vous avez sans doute été attentif à la prière d'ouverture de la messe de dimanche, il y a deux jours, dimanche, 25e dimanche, où il était dit « Toi, Seigneur, qui as fait consister la loi de sainteté dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donne-nous à travers la conformité de notre vie au commandement de parvenir à la vie éternelle, qui est effectivement le terme de notre existence. » L'année sainte, c'est une année pour retrouver l'essentiel de la vie chrétienne. C'est une année pour se resituer vers l'objectif final de notre vie. Nous ne sommes pas là pour construire le paradis terrestre. Jésus n'est pas venu dans le monde pour refaire le paradis terrestre. Il est venu dans ce monde que nous avons cassé, brisé par le péché, que nous continuons de briser par notre péché. Il est venu pour faire advenir le royaume des cieux et nous conduire à la vie éternelle. Ce qui ne nous dispense pas, bien sûr, d'anticiper le royaume des cieux sur la terre. Mais sans essayer de construire un monde qui serait finalement sans Dieu, où on serait établi définitivement. Non. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes de passage. Nous marchons vers une patrie meilleure, celle que Jésus nous a révélée, celle vers laquelle Dieu nous conduit par son Église. On a besoin de se redire des choses aussi basiques. On a besoin de se redire des choses aussi élémentaires. Comment est-ce que nous regardons vers le but à travers tout ce que nous faisons sur la terre, même s'il s'agit de travailler à la justice et à la paix? Mais pourquoi? Pour anticiper sur la terre le terme de notre existence, qui est la communion définitive avec Dieu dans la vie éternelle au-delà de la mort. Nous sommes des êtres de la Pâque, du passage de la mort à la vie, du passage de ce monde au Père et au royaume que Jésus est venu révéler et qu'il est venu instaurer. Ceci dit, cette année jubilaire, comme je vous le disais, est placée sous le signe de l'espérance. Il y a un passage de l'Épître aux Romains que le pape commente au début de sa bulle d'indiction et qu'on va lire tout simplement pour s'en imprégner. C'est le texte, je crois, source de cette année jubilaire qu'il nous propose sous le thème de pèlerin d'espérance. C'est au chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Je vous lis presque tout le passage jusqu'au verset peut-être 11, mais quelques versets ont été retenus particulièrement par le pape. Ayant donc reçu notre justification de la foi de notre baptême, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est magnifique, hein ? Tout est dit, déjà dans ces deux premiers versets. Nous sommes justifiés non pas par nos œuvres, par nos mérites, mais par la foi reçue au jour de notre baptême, qui nous met en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes unis à Dieu par la foi, ce que je vous disais tout à l'heure. Lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. La grâce, c'est-à-dire la participation, comme dira saint Pierre, à la vie divine. La communion avec la sagesse de Dieu, qui est vérité, avec l'amour de Dieu, qui est amour, avec l'agir de Dieu, qui est tout-puissant. Cette grâce nous établit et nous conduit à cette gloire, parce que la grâce est le commencement de la gloire. Si nous sommes dans l'état de grâce, quels que soient les combats de notre vie, on va y venir, à la suite avec saint Paul, nous sommes déjà au ciel. Et tous y restaient jusqu'au bout pour y entrer définitivement. Nous sommes, à cause de notre foi et de cette grâce dans laquelle nous sommes établis, qui est finalement la charité, hein, la grâce de l'Esprit Saint, par la grâce de l'Esprit Saint, la charité a été infusée dans nos cœurs, eh bien, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance, quel est l'objet de l'espérance? C'est la vie éternelle. Quels que soient les obstacles que nous rencontrons, qui viennent parasiter la grâce qui est en nous, qui viennent parfois mettre à l'épreuve notre foi qui nous établit dans la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans l'espérance de la vie éternelle. Dieu ne nous abandonne pas dans le combat que nous avons mené ici-bas, qui est le combat de la foi et de la charité. Nous sommes tournés vers le Seigneur, qui n'est pas seulement loin de nous, mais qui nous donne le don de l'espérance, qui nous maintient dans la certitude, la confiance en lui, qui nous donnera la vie éternelle. Que dis-je, dit saint Paul au verset 3, nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance. Et voilà le passage qui donne le titre de cette bulle d'indiction. Et l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné, comme il le dira plus loin, je crois que c'est au chapitre 8 hein, de l'Épître aux Romains. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation, le glaive, la mort? Ni la mort ni la vie ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que par la foi, nous avons reçu la grâce de l'Esprit Saint qui a infusé dans notre cœur la charité de Dieu, l'amour de Dieu, qui nous fait faire l'expérience sans cesse de l'amour de Dieu et qui nous donne l'espérance, qui ne déçoit pas. C'est en effet alors que nous étions sans force. C'est alors au temps fixé, alors là il annonce le kérigme, que le Christ est mort pour les impies. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus maintenant, justifiés dans son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère? Si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, dès à présent, nous avons obtenu la réconciliation. C'est important parce que, comme le dit le Saint-Père, dans cette bulle d'indiction, il nous rappelle, au fond, le but d'une année sainte. Une année sainte, comme il le dit, c'est un moment de rencontre personnelle et vivante avec le Seigneur Jésus, qui est porte du salut. En vue de l'annoncer à tous, n'oublions pas que nous ne sommes pas tout seuls et que si nous sommes porteurs d'un dépôt, et vous le savez bien dans votre mission de catéchiste, vous êtes appelés à transmettre cette foi et cette espérance qui est en vous et qui doit se manifester concrètement dans votre vie, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on transmet la foi. Ce n'est pas un mode d'emploi qu'on suit petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, on donne ce qu'on a voulu, maintenant on doit donner, puis c'est fini. Non. À travers votre vie que vous transmettez la foi. À travers des paroles, sans doute, des paroles de vie qui s'incarnent dans votre vie. Si ça ne s'incarne pas dans votre vie, vous ne vous étonnez pas que vous avez fait quelque chose sans vous. Et continuez pas. Même s'ils sont très heureux, parce que la catéchisme est tellement gentille. Elle est tellement gentille. On passe un tel bon moment avec elle. Mais ce n'est pas suffisant. Mais vous le savez bien, je vous dis ça pour vous bousculer, mais je sais que vous le faites comme ça, que vous êtes des témoins, et que vous êtes capables de dire comment l'amour de Dieu s'incarne dans votre vie. Vous êtes capable de montrer par votre comportement concret comment l'espérance de la vie éternelle vous anime. Et ça vous porte. Ça vous porte. Voyez, on vient de perdre un jeune prêtre. Ça reste quand même une épreuve. Moi, je n'ordonne pas les prêtres pour les enterrer trois ans après. Généralement, les prêtres que j'enterre, c'est toujours un moment fort dans la vie d'un diocèse, mais c'est des prêtres qui ont été ordonnés prêtres par mes prédécesseurs, parfois lointains. Là, on accueille un jeune, une forme, pendant 7-8 ans. Il devient diacre, prêtre, donné à son ministère. Au bout de 3 ans, paf, le Seigneur nous le reprend. Mais ce prêtre, je veux le dire, parce que c'était pas quelqu'un qui se mettait en avant. Il était même plutôt effacé. Très souriant, très paisible, mais il émanait de lui une présence du Seigneur. Et les enfants du Kit Kat, comme ils disent là-bas, à Naï, parce qu'ils faisaient le catéchisme tous les mardis soirs, tous les jeudis soirs, vous savez. Et puis aussi à l'école catholique, Sainte-Élisabeth. Et puis il a emmené les jeunes cet été, les enfants, au camp Saint-Michel, à Saint-Pitry, de Toumy, la paroisse Saint-Pitry de Sauvagnon. Ben, les enfants sentaient qu'il y avait une présence. Ça suffit. Ils le sentaient habité. Il y en a un parmi vous qui m'a dit que lorsqu'il a célébré la messe pour les Manouches, alors qu'en général, même moi, quand je célèbre ceux qui Manouches, il faut qu'il y ait des gars qui donnent des coups de bâton aux gens qui restent sages. Ben, c'est Roland qui m'a dit ça, pour en témoigner. Hein. Quand il sort de la messe là, pas un bruit. Pas un bruit. C'est ça? Ils étaient tournés vers le Seigneur, à travers sa présence, c'est tout. Il faisait de très belles homilies, j'en suis sûr, mais c'était pas l'accordaire. Hein. Vous vous rappelez ce que disait l'accordaire, un peu comme le curé d'Ars, qui avait beaucoup de mal à retenir les homilies qu'il essayait de. Il se sentait tellement nul, le curé d'Ars, qu'il avait une bibliothèque avec plein de sermons, comme on disait autrefois. Il essayait d'apprendre par cœur les sermons, puis il n'avait pas de mémoire, il y avait des gros trous, et puis il parlait de son cœur. Là, ça touchait les gens. Même si c'était quelques paroles, mais il était tellement habité par la présence du Seigneur, que ses mots touchaient. Pas besoin d'artifice. Un jour, l'accordaire, le grand prédicateur de Notre-Dame, qui faisait des effets de manche, est venu à Ars, parce que le curé d'Ars lui avait demandé de venir convertir sa paroisse. Il a perdu tous ses moyens. Et quand il est parti, il a dit, « Moi, Notre-Dame, quand je prêche, tout le monde monte jusque sur les confessionnaux pour me voir. » Lui, quand il prêche, les gens rentrent au confessionnal pour se convertir. Être habité par la présence du Seigneur, vous voyez. C'est ça qu'on demandait. Je vous cite ce témoignage. Bien sûr, c'est un jeune prêtre, donc ça nous touche davantage. Puis on est forcément un peu plus touché parce qu'on l'a vu grandir, et puis on l'a vu commencer son ministère, et puis il y aura des plans qui ne sont pas les nôtres. Hein. Et que le nom du Seigneur soit béni, de toute façon. Mais pour moi, ce sera pour les jeunes du catéchisme dans cette paroisse, ce sera un modèle. On pourra le montrer. On pourra le montrer. Comme on disait du curé d'Ars, un homme qui voulait absolument le voir, et quand il est sorti, il dit, alors qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu Dieu dans un homme. J'ai vu Dieu dans un homme. C'est impressionnant. Nous ne sommes pas assez habités par la présence du Seigneur. Nous ne sommes pas assez concrètement déjà le ciel sur la terre. Et c'est ça l'enjeu d'une mission de catéchiste, d'une mission de prêtre, d'une mission d'évêque. Il y a long le chemin pour moi encore, pour y parvenir. Quand je vois un jeune prêtre qui a 3 ans, il est devenu notre frère aîné. Nous, on n'est plus que des petits, que des enfants, à côté de ça. Je vous dis ça parce que ce que dit saint Paul, pour revenir quand même à notre... Le pape, pour revenir à notre sujet, il dit, saint Paul, dans cette épître, où il parle de l'espérance, stimule le courage de la communauté chrétienne de Rome, qui est précisément prise avec la persécution, les tribulations. Nous rendons grâce aux tribulations elles-mêmes, parce que nous savons que la tribulation produit la constance. La vertu est prouvée, l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas. Une année jubilaire, c'est une, c'est sa racine dans la pratique du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est une année où on remet les pendules à l'heure. Et en particulier, c'est une année où on remet des dettes. Vous savez, le pape Jean-Paul II l'avait demandé déjà pour l'année 2000, le pape François le redit quelque part dans son indiction, il demande aux pays riches de remettre la dette aux pays pauvres. C'est le temps d'une remise de dette. Vous avez des dettes envers quelqu'un, profitez de cette année pour remettre vos dettes. Hein ? Pour réparer. Mais les dettes, c'est quoi ? Dans le Notre Père, tel que Jésus le donne dans l'Évangile, c'est « Remets-nous nos dettes comme nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. » Et c'est quoi les dettes ? Comme on l'a compris, c'est plus seulement matériel, c'est plus seulement une monnaie d'échange qui est en jeu ici. Ce sont les offenses, ce sont les péchés. L'année jubilaire a été particulièrement mise en œuvre dans l'histoire de l'Église, on va dire quand, pour... C'est pour ça que j'avais lu... J'avais sorti Gaspio, je me suis égaré, mais... pour obtenir la réconciliation. La réconciliation avec Dieu. Mais la réconciliation entre nous. Hein. Vous croyez pas que nous en amassons des dettes entre nous, dans nos communautés chrétiennes, dans nos familles, dans notre communauté diocésaine? Vous croyez pas qu'il y a des besoins de réconciliation entre nous? Que quelquefois ces dettes et ces offenses, elles sont étalées sur la place publique ou dans nos commérages, nos rumeurs permanentes, nos jugements, nos accusations, nos dénonciations, c'est au cœur de nos communautés. Une année sainte, si on veut la prendre au sérieux, pas seulement comme un truc, le pape, on va faire du pèlerinage à Rome, on va essayer de faire quelque chose, mais nous chez nous, on n'a pas besoin de tout ça, on ne sait pas comment faire, on n'a pas besoin des autres, on va faire des trucs, faire des activités. Et si on allait à l'essentiel d'une année sainte, qui est une année pour remettre les pendules à l'heure, pour nous réconcilier les uns les autres, en commençant par nous réconcilier avec Dieu. Parce que je ne peux pas me réconcilier avec mon frère si je ne me suis pas réconcilié avec Dieu. Ça, c'est fondamental. Nous ne pouvons pas avancer dans notre mission sans rougir, entendez ? Sans rougir. Si nous ne commençons pas par prendre cette année sainte comme un moyen de nous réconcilier. Et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui dès à présent nous avons obtenu la réconciliation. Nous croyons en un Christ mort et ressuscité. La résurrection, c'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur ma mort. C'est la victoire sur mon péché. C'est la victoire sur les conflits. C'est la victoire sur les divisions. C'est la victoire sur les dénonciations, sur les condamnations de mes frères. Et nous en sommes tous là. Je me parle à moi-même. Ne me dites pas que vous croyez au Christ ressuscité si vous dénoncez votre frère. Si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu par le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Si vous n'êtes pas réconcilié avec vos frères et que vous ne faites rien pour le faire, vous n'êtes pas des témoins de la résurrection du Christ. Je ne suis pas un témoin de la résurrection du Christ quand je ne cherche pas à me réconcilier avec mes frères. Comment voulez-vous transmettre la foi aux enfants si nous passons notre temps à donner par notre comportement et nos rumeurs et nos paroles exactement le contre-témoignage de ce que nous sommes appelés à porter. Je ne sais pas pourquoi je dis ça comme ça, d'ailleurs, mais je me le dis à moi-même. Il faut que nous soyons en vérité. Il faut arrêter le faux-semblant. Il faut arrêter d'être hypocrite. C'est concrètement que dans notre vie, le Seigneur ressuscite, à condition qu'on en prenne les moyens. Vous voyez, dans son exhortation, sa lettre apostolique, au début du nouveau millénaire, le pape Saint Jean-Paul II donnait 6 piliers de la sainteté. Après nous avoir dit qu'il fallait mettre tout chemin pastoral dans la perspective de la sainteté. Le premier, c'est la prière. Et il dit, jusqu'à la folie du cœur. Pas la petite prière que l'on dit en passant. Ah, on va faire une petite prière, comme dit le curé d'Ars. J'en vois parmi vous qui rentrent à l'église en disant, je vais faire une petite prière, c'est-à-dire, je m'en vais me débarrasser de toi. La prière, jusqu'à la folie du cœur. J'ai demandé à l'abbé Pierre Montbru, que j'aperçois au fond, et qui est responsable de la formation permanente pour le Béarn, de fonder des écoles de prière dans le diocèse. La prière, le premier pilier de la sainteté. La prière. Le deuxième, l'Eucharistie dominicale. L'Eucharistie dominicale, comme je le dis toujours aux enfants, sans doute c'est un précepte, le commandement de Dieu qui vous dit « Tu sanctifieras le jour du Seigneur » et pour nous dans l'Église, c'est « Tu iras à la messe le dimanche ». C'est un précepte, mais ce n'est pas une loi, c'est vital. Ce n'est pas tant obligatoire que vital. Sans la messe dominicale, nous ne pouvons pas vivre. Vous vous rappelez de ces martyrs d'Abitène au IVe siècle en Afrique du Nord qui avaient été surpris en flagrant délit de se rassembler pour célébrer l'Eucharistie dominicale alors que l'empereur l'avait interdit sous peine de mort. Ils ont été traînés sur la place publique. Et en mourant, ils disaient « Sine Dominico vivere non possumus ». Sans la messe dominicale, sans le dimanche, sans la messe dominicale, nous ne pouvons pas vivre. Est-ce que nous pouvons vivre sans la messe dominicale? Nous qui préparons les enfants à la première communion, est-ce que nous pouvons vivre sans la messe dominicale? Dites-moi-le. Non, dites-le dans votre cœur, Seigneur. Moi, je ne suis pas là pour juger. Jésus nous dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Ça nous intéresse d'avoir la vie éternelle au présent. Et quand il nous dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Vous n'aurez pas la vie. Ça montre bien que c'est vital. Troisième pilier de la sainteté, le sacrement de la réconciliation. Tombé en désuétude dans nos communautés chrétiennes, ne nous étonnons pas d'être si peu enclin à nous réconcilier avec nos frères. Si peu enclin à cesser de juger mes frères. Peut-être que je suis en train de le faire. Peut-être que je suis en train de le faire inconsciemment. Vous voyez ? Si nous ne pratiquons pas ce sacrement qu'il nous a donné, que ce soit un confessionnal qui a, par les temps qui courent, l'avantage de permettre la confidentialité quand on se confesse seul dans une église et la distance avec le confesseur, très bien, mais un lieu de réconciliation qui peut être au cœur d'une assemblée de pénitents que nous sommes à travers cette chose instituée par le Concile qui est la célébration communautaire du pardon, mais avec la confession et la réconciliation individuelle et personnelle. Jésus ne nous aime pas en gros. Il ne nous aime pas anonymement. Je ne suis pas un numéro de mon Seigneur. Il me regarde comme unique. Il m'aime d'une manière unique et singulière. Il a donné sa vie pour moi, comme dit saint Paul, ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et je fais l'expérience de cet amour personnel qui va rejaillir sur les autres précisément quand je rentre dans cette rencontre individuelle, ce dialogue personnel avec le Seigneur. Pourquoi il a inventé ce sacrement? Je le dis sans cesse. Je le répète sans cesse. Vous savez, quand on vieillit, on finit par se répéter tout le temps. Mais c'est la vérité de l'Évangile que je me contente de répéter. Pourquoi le Seigneur a-t-il institué ce sacrement du pardon? Parce qu'il ne me juge pas. Il sait que je suis faible. Il ne me condamne pas. Et pourtant, il aurait des raisons de me condamner. Moi qui vous parle. Quand je vois les péchés qui se répètent dans ma vie, moi, l'évêque qui vous parle, des péchés que inavouables peut-être, que je répète dans ma vie à 67 ans, ben heureusement que le Seigneur ne me condamne pas. Il ne me condamne pas. Il me dit, mais sans moi tu ne peux rien faire, ta sœur. C'est moi qui suis venu pour te sauver. Alors qu'est-ce que tu crois? Tu vas dire, oh, je vous promets que je ferai mieux la prochaine fois. Est-ce que tu parles? Le curé d'Ars, il disait, le Seigneur est tellement bon que lorsqu'il te pardonne, il va jusqu'à oublier que tu vas recommencer. Parce que Jésus ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il veut nous faire l'expérience de son amour, de miséricorde, et pourtant il continue de nous aimer, et bien il a institué ce sacrement. Comment voulez-vous faire l'expérience de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, si vous ne pratiquez pas ce sacrement de la pénitence et de la réconciliation? Le pape, dans la lettre d'indiction, insiste beaucoup sur cette question. Il le dit surtout après, mais les églises jubilaires, le long des itinéraires, et dans l'Ourps, dans la ville de Rome, seront des oasis de spiritualité où l'on pourra se rafraîchir sur le chemin de la foi et s'abreuver aux sources de l'espérance, avant tout en s'approchant du sacrement de la réconciliation, écoutez bien ce qu'il dit, point de départ irremplaçable d'un véritable chemin de conversion. Le sacrement de pénitence et réconciliation, c'est le sacrement de la croissance dans la grâce que j'ai reçue et que je passe mon temps à briser ou à polluer par mon péché, par mes convoitises, comme disait saint Jacques dans la deuxième lecture de dimanche, voyez, pour retrouver cette grâce, pour la faire grandir en moi, pour que cette grâce reçue au baptême finisse par irriguer jusqu'au moindre recoin de mon humanité, pour entrer précisément dans la lumière et la sainteté de Dieu. Point de départ irremplaçable d'un véritable chemin de conversion. Dans les églises particulières, l'on veillera de manière spéciale à la préparation des prêtres et des fidèles aux confessions et à l'accessibilité du sacrement sous forme individuelle. Avec la grande tradition de l'Église, c'est le pape qui parle. Et après, il va dire l'importance du sacrement, on y reviendra. Alors, comment sont nées les années jubilaires? Vous savez que c'est né en 1300 par une bulle du pape Boniface VIII. Mais ça a été précédé par d'autres expériences que je vais vous lire dans la bulle du pape. Il nous rappelle en effet qu'avant la promulgation de ces années saintes qui vont avoir lieu tous les 25 ans, à partir de 1300, il y a eu déjà des expériences spirituelles dans la piété populaire qui ont eu ce but de permettre une réconciliation, un retour en grâce. Donc je cherche les choses qu'il nous dit, voilà. Par exemple, le pape Célestin V, en 1294, a institué un grand pardon. Les pardons, ça existe encore, hein. En Bretagne, j'ai présidé, moi, cet été, pendant mes vacances, un petit pardon dans une paroisse du Morbihan, là, qui s'appelle Kervignac. Et donc il y a une chapelle, et on vit en pèlerinage pour obtenir une grâce de réconciliation, un pardon. Le grand pardon que Saint Célestin V voulut accorder à ceux qui se rendaient à la basilique Sainte-Marie de Collemaggio à L'Aquila, en Italie. Il y a toujours un lieu de pèlerinage vers lequel on va. Le pèlerinage, c'est un chemin de conversion qu'on accomplit, et puis on va demander une grâce. Moyennant une demande une pratique de la pénitence, de l'Eucharistie, etc. En 1216, le pape Honorius III avait accueilli la supplique de saint François qui demandait l'indulgence, on va y revenir parce que ça fait partie du jubilé, même si ça, on n'est pas toujours très familier de ça, pour ceux qui visiteraient la Portioncule les deux premiers jours du mois d'août. Il en va de même pour le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Le pape Calixte II, en 1122, permit que le jubilé soit célébré dans ce sanctuaire chaque fois que la fête de l'apôtre Jacques coïnciderait avec un dimanche. Vous voyez donc, au terme de cette démarche, en général dans un lieu saint et sanctifié, un lieu terme d'un pèlerinage, eh bien, on vient de demander une grâce particulière. Et là, en particulier, une grâce de renouvellement de notre vie baptismale, une grâce de réconciliation avec Dieu, une grâce de conversion à l'Évangile. Alors, je vous dis pratiquement, pour changer un petit peu, pour être un petit peu plus calme, je vous dis pratiquement comment ça va se passer. Donc le pape, ça se passera bien souvent, mais le pape parle d'un chemin. Et il précise ceci. Fort de cette longue tradition et convaincu que cette année jubilaire sera pour toute l'Église une expérience intense de grâce et d'espérance, je décide que la porte sainte de la basilique Saint-Pierre du Vatican sera ouverte le 24 décembre de cette année 2024, marquant ainsi le début du jubilé ordinaire. Le dimanche suivant, le 29 décembre 2024, j'ouvrirai la porte sainte de ma cathédrale, Saint-Jean de Latran, qui fêtera le 1700e anniversaire de sa dédicace, le 9 novembre de cette même année. Puis, le 1er janvier 2025, en la solennité de Marie, Mère de Dieu, sera ouverte la porte sainte de la basilique papale Sainte-Marie-Majeure, hein, que pape François aime tellement qu'il a prévu d'être enterré à Sainte-Marie-Majeure et pas à Saint-Pierre, comme les autres. Des petites originalités comme ça, chacun a ses originalités. Il s'est même fait faire un petit appartement à côté de Sainte-Marie-Majeure. Vous savez que chaque fois que le pape François part en pèlerinage quelque part, que ce soit en Italie ou dans le monde, il va faire une prière devant l'icône Salus Populi Romani à Sainte-Marie-Majeure et il dépose un bouquet de fleurs pour quelqu'un le fait pour lui. Et quand il revient du pèlerinage, il vient rendre grâce à la Vierge Marie, à Sainte-Marie-Majeure, pour le voyage qu'il a fait. Et c'est des petits signes de piété populaire portés par le pape qui ont quand même leur importance pour nous. Enfin, le dimanche 5 janvier, la porte sainte de la basilique papale Saint-Paul-hors-les-Murs sera ouverte. Les trois dernières portes saintes seront fermées au plus tard, le dimanche 28 décembre de la même année. C'est-à-dire Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs. En outre, j'établis que le dimanche 29 décembre 2024, c'est l'hiver, tout le monde est parti, mais enfin quand même, dans toutes les cathédrales et co-cathédrales, les évêques diocésains célébreront la Sainte Eucharistie pour l'ouverture solennelle de l'année jubilaire, en même temps que lui le fera dans sa cathédrale à Saint-Jean-de-Latran, à Rome, selon le rituel qui sera préparé pour l'occasion. Un pèlerinage partant d'une église choisie pour la collection vers la cathédrale sera le signe du chemin d'espérance qui, illuminé par la parole de Dieu, rapproche les croyants. Au cours de ce pèlerinage, des passages du présent document seront lus et l'indulgence jubilaire sera annoncée au peuple, indulgence qui pourra être obtenue selon les prescriptions contenues dans le même rituel pour la célébration du jubilé dans les églises particulières. Au cours de l'année sainte, qui s'achèvera le dimanche 28 décembre 2025 dans les églises particulières, On veillera à ce que le peuple de Dieu accueille avec une pleine participation tant l'annonce d'espérance de la grâce de Dieu que les signes qui en attestent l'efficacité. Les signes qui en attestent l'efficacité. Quels sont les signes que vous allez donner, vous, que je vais donner, moi, pendant cette année sainte, qui attestent de l'efficacité de cette démarche de grâce? Quels sont les signes concrets? Les signes concrets qui sont le fruit de la grâce, mais qu'on va demander précisément au cours de ce pèlerinage, de cette année sainte. Le jubilé ordinaire se termina par la fermeture de la porte sainte de la basilique papale de Saint-Pierre du Vatican le 6 janvier 2026, épiphanie du Seigneur. Puisse la lumière de l'espérance chrétienne atteindre chacun comme message de l'amour de Dieu adressé à tous. Puisse l'Église être un témoin fidèle de cette annonce dans toutes les parties du monde. Alors après, précisément, le pape nous donne trois signes d'espérance. Et nous allons essayer nous-mêmes de demander au Seigneur par sa grâce d'être les témoins par notre vie de ces trois signes d'espérance. L'un ou l'autre, les uns et les autres. Il dit que les signes des temps, parce que les signes d'espérance qu'il choisit, il est choisi à partir des signes des temps que nous discernons aujourd'hui, doivent être transformés en signes d'espérance. Le premier signe d'espérance qu'il nous donne, c'est la paix. Face à la guerre qui, d'une certaine manière, se répand en ce moment de manière extrêmement menaçante. Ce n'est pas seulement le conflit qui peut s'enliser et qui pourrait progresser en Ukraine, mais c'est, comme vous le voyez en ce moment dans les médias, ce qui se passe en Terre Sainte, entre Israël et le Liban. C'était d'abord la bande de Gaza, maintenant c'est le Liban, parce que le Hezbollah commence à entrer dans le conflit, qui pourrait se généraliser à tout le Moyen-Orient. Mais je pense que ce signe d'espérance de la paix, pour revenir à ce que j'ai dit de manière un peu véhémente tout à l'heure, eh bien, nous allons essayer de le donner dans nos propres conflits. Saint Jacques qui nous dit: quelles sont l'origine des conflits et des guerres? Parce que la guerre, ce n'est pas une génération spontanée. La guerre, quand elle prend des proportions aussi grandes qu'un conflit entre deux nations, ou même un conflit international, comme une guerre mondiale, quelles sont, où est-ce que se trouve la source de ces guerres? En moi? Si je suis toujours en guerre avec mon voisin, comment voulez-vous que la guerre ne se déploie pas à l'échelle du monde? La responsabilité, bien sûr, je ne suis pas responsable forcément de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais je reconnais que aussi je suis en conflit avec d'autres. Comment je vais donner ce signe d'espérance au monde qui nous regarde en faisant une démarche? Mais ne dites pas, celui-là, il faut quand même faire une démarche. Moi, j'en connais un, deux, trois, tiens, je les vois peut-être, qui auraient besoin de faire une démarche. Non, je ne demande pas à l'autre de faire une démarche. Moi, si tu sais que quelqu'un, ton frère, a quelque chose contre toi, et que tu vas porter ton offrande sur l'autel, dépose ton offrande devant l'autel, va te réconcilier avec ton frère, puis porte ton offrande sur l'autel. C'est l'Évangile, hein ? Il faut que nous entraînions ensemble, et il faut que vous m'entraîniez aussi moi, hein, à donner par grâce ce premier signe d'espérance que le pape nous demande, qui est la paix. Vous voulez lutter contre la guerre en Ukraine ? Commencez par résoudre vos conflits dans vos maisons, dans vos familles, dans vos communautés, dans vos villages, dans notre diocèse, en étant des artisans de paix. Deuxième signe d'espérance qui transforme un signe des temps, la transmission de la vie. Je vous lis ce qu'il dit là, le pape. Regarder l'avenir avec espérance, c'est aussi avoir une vision de la vie pleine d'enthousiasme à transmettre. Nous devons malheureusement constater avec tristesse que dans de nombreuses situations, cette vision fait défaut. La première conséquence est la perte du désir de transmettre la vie. En raison des rythmes de vie frénétiques, des craintes concernant l'avenir, du manque de garanties professionnelles et de protection sociale adéquate, de modèles sociaux où la recherche du profit et non le soin des relations dicte l'agenda, on assiste dans plusieurs pays à une baisse préoccupante de la natalité. Au contraire, dans d'autres contextes, accuser l'augmentation de la population et non le consumérisme extrême et sélectif de certains est une façon de ne pas affronter les problèmes. Il cite là ce qu'il avait déjà dit dans l'encyclique Laudato si. Quand on dit qu'il faut faire des programmes de stérilisation dans les pays africains, parce que c'est une explosion terrible, pendant ce temps-là, nous, on ne se pose pas de questions sur le consumérisme. Et nous en sommes tous là. Ne regardez pas les autres. Moi, je me regarde moi-même, la sobriété de ma vie. J'ai sûrement des choses à faire dans ce domaine. Voyez. Moi, je pense qu'il faudrait, mais ce sera la grâce de Dieu, parce que c'est par notre pouvoir, qu'il y ait une natalité en croissance dans nos églises de vieille chrétienté pour donner au monde ce signe d'espérance. Être ouvert davantage à la providence de Dieu qui pourvoit, parce que la vie est toujours un don et un don sacré, et non pas se donner des alibis qui rationnellement peuvent se comprendre pour ne pas donner la vie. Le pape nous appelle à ce signe d'espérance qui est concrètement la preuve que nous croyons au Christ ressuscité, vainqueur de la mort. C'est par notre pouvoir, c'est une grâce à demander. On a une année pour demander cette grâce qui s'accomplira dans notre vie. Troisième signe d'espérance auquel on est peut-être plus rompu, et tant mieux, il faudra augmenter d'ailleurs. Au cours de l'année jubilaire, nous serons appelés à être des signes tangibles d'espérance pour de nombreux frères et sœurs qui vivent dans des conditions de détresse. Et là, il cite toute une litanie. Alors là, les détenus, très important, la pastorale qui se déploie dans les maisons d'arrêt. Moi, je suis admiratif de ce qui s'y fait. Nos aumôniers, avec des équipes d'aumônerie, qui vont toutes les semaines à la rencontre des détenus. Et il y a des grâces extraordinaires. Moi, j'y vais pour Noël, pour Pâques, pour le 15 août, parfois. Et je vois les fruits de ce travail qui est fait dans l'ombre, que personne ne voit, évidemment, c'est derrière les murs. Hein. Mais je me souviens de la messe du Jeudi Saint, où il y avait une vingtaine de détenus pour participer à cette messe, en maison de peau, dans une pièce qu'on nous prête au cœur de la prison. Hein. Et bien préparés par le diacre permanent, Bertrand Ecomar et toute son équipe, puis avec eux. Et au moment du lavement des pieds, on a proposé le lavement des pieds, il y a 17 sur les 20 qui ont enlevé leurs chaussettes. Et il y a un jeune musulman africain qui était là et qui participe à la vie de l'aumônerie, qui est venu se mettre à genoux à côté de moi pour porter la bassine. Et quand je regardais les détenus, ils étaient en larmes. Magnifique. Et à la fin de la messe, Bertrand Ecomar a demandé que se présentent ceux qui voulaient demander un sacrement. Mais ce jeune musulman, il s'est avancé et dit « Je demande le baptême. » Et on a baptisé, confirmé, en maison d'arrêt, des détenus. Ça, c'est une... On parle beaucoup de réinsertion aujourd'hui. On dit qu'il faut vider les prisons pour réinsérer les gens. Parce que c'est vrai que la prison est bien souvent un lieu qui va conduire à la récidive. Ce n'est pas un lieu béni. Mais quand il y a une aumônerie qui fait son travail, je peux vous dire que ça peut être un lieu de vraie réparation intérieure. Il faut assumer la peine, qui normalement est médicinale. Mais ça aide. Je voyais à la maison d'arrêt de Bayonne, j'ai rencontré, donc il vient de partir hélas, mais le directeur de la maison, qui n'est pas croyant, pourtant il s'appelle Emmanuel, quand il est parti, je lui dis, quand on s'appelle Emmanuel, on ne peut être pas croyant, enfin, Dieu est avec nous. Ce directeur, il nous dit, j'ai besoin de l'aumônerie, parce que la dimension spirituelle est essentielle pour la réparation des détenus. Pour leur réparation intérieure. Les détenus, les malades, la pastorale de la santé, on vient de nommer un nouveau responsable diocésain, la pastorale de la santé, et vous savez bien, donc, par moi, ce que c'est important, les services évangéliques des malades, les fidèles qui vont porter la communion, qui vont visiter les malades, qui préparent la visite du prêtre pour la confession, pour le sacrement des malades. Les jeunes qui sont souvent dans des situations difficiles pour leur avenir et qui peuvent être tentés par des paradis artificiels, aujourd'hui de plus en plus, quand même, je ne sais pas un jugement que je porte, c'est une grande tristesse que j'ai dans le monde. Quand je vois dans les fêtes de village, je ne sais pas ce qu'il a ce micro, mais quand on voit dans les fêtes de village, les fêtes de Bayonne, qui ont de très belles choses aussi, hein, et la philosophie des fêtes de Bayonne, c'est magnifique au départ. Mais quand on voit cette jeunesse, qui n'est pas sans mérite d'ailleurs, hein, mais qui est là, qui s'est déjà complètement saoulée avant d'entrer dans la fête, et qui finalement ne sait plus très bien où ils vont, ils déambulent, mais il n'y a plus de sens. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une grande souffrance intérieure. C'est-à-dire qu'il y a une grande souffrance intérieure, qu'il y a un grand manque du sens de la vie. Le pape le dit ça. Lorsque l'avenir est incertain et imperméable aux rêves, lorsque les études n'offrent pas de débouchés et que le manque de travail ou d'emploi suffisamment stable risque d'annihiler les désirs, il est inévitable que le présent soit vécu dans la mélancolie et l'ennui. L'illusion des drogues, le risque de la transgression et la recherche de l'éphémère créent plus en eux que chez d'autres des confusions et cachent la beauté et le sens de la vie, les faisant glisser dans des abîmes obscurs et les poussent à accomplir des gestes autodestructeurs. C'est pourquoi le jubilé doit être dans l'Église l'occasion d'un élan à leur égard. Avec une passion renouvelée, prenons soin des jeunes, des étudiants, des fiancés, des jeunes générations, proximité avec les jeunes, joie et espérance de l'Église et du monde. Les migrants, qui fait partie aussi, comme on le sait, des préoccupations du pape qu'il a souvent dites. Hein. Ceux qui viennent parce qu'ils fuient des situations difficiles, qui fuient des situations impossibles. Il y a migrants et migrants sans doute, mais on n'est pas là pour juger. Nous, quand on voit un migrant, quel qu'il soit, qui est dans une situation difficile, qu'est-ce que nous dit Jésus? C'est dans l'évangile du jugement dernier. Les réfugiés, les exilés, les personnes déplacées, les personnes âgées, qui méritent des signes d'espérance, elles qui font souvent l'expérience de la solitude et du sentiment d'abandon. On pense à ce projet de loi sur l'euthanasie, hein, qui va être sans doute au revenir, même si peut-être un peu moins de manière agressive que par les précédents gouvernements, mais... Et puis les pauvres, voilà, les pauvres sous toutes leurs formes, dans toutes les catégories de précarité que nous connaissons de plus en plus autour de nous. Signe d'espérance que notre charité, que le soin que nous portons à toutes ces catégories de personnes qui sont en détresse. Ne choisissons pas, hein, trois signes d'espérance qu'il faut donner. Dans nos communautés, nous devons donner ces trois signes d'espérance comme fruit de cette année jubilaire de conversion et de réconciliation. Alors, un dernier mot peut-être pour ne pas me bassiner trop longtemps. Ah oui, pardon. Donc, prière. voyez, je suis pas du tout dans l'ordre aujourd'hui. Je dois être un peu... Prière. Le quatrième, c'est le primat de la grâce. Le primat de la grâce. C'est Dieu qui fait, et c'est pas moi. La prière, le sacrement de l'Eucharistie, l'Eucharistie dominicale, le sacrement de la réconciliation, vont faire grandir la grâce en moi qui va faire les choses. C'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Comme dit le psalmiste, si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Vous voyez ? Ça, c'est le quatrième. Cinquième, l'écoute de la parole. L'écoute de la parole. Et le sixième, l'annonce de la parole. Car vous voyez bien que le but de notre démarche de sanctification, à travers tous ces moyens que nous avons dit là, le but c'est de partager ce trésor avec les autres. C'est d'annoncer l'Évangile, c'est d'honorer le mandat missionnaire du Christ. Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, c'est-à-dire celui qui refusera de croire, quand bien même l'Évangile lui aurait été dûment annoncé, sera condamné. C'est Jésus qui parle, hein, c'est pas moi. Sans doute, Dieu peut sauver les hommes par des moyens qui échappent aux moyens ordinaires qu'il nous a donnés, c'est-à-dire l'Église, l'annonce de l'Évangile et les sacrements, dont il a le secret. Bien des hommes et des femmes dans le monde et dans l'histoire, sans faute de leur part, n'ont pas adhéré à l'Évangile, ils n'ont pas connu Jésus-Christ, puisque cela ne leur a pas été donné de le connaître, parce que cela ne leur a pas été annoncé. Mais, dit le pape Paul VI, dans le numéro 80 de l'exhortation apostolique, l'évangélisation du monde moderne. Vous allez écouter ça. Il ne serait pas inutile que chaque chrétien, et donc chaque évangélisateur, ceux que le pape François appelle les disciples missionnaires, approfondissent dans la prière cette pensée. Les hommes pourront se sauver aussi par d'autres chemins, grâce à la miséricorde de Dieu, même si nous ne leur annonçons pas l'Évangile. Ce que je viens de vous dire. Mais nous, pouvons-nous nous sauver si par négligence, par peur, par honte, ce que saint Paul appelait « rougir de l'Évangile » ou par suite d'idées fausses, nous omettons de l'annoncer ? Car ce serait alors trahir l'appel de Dieu qui, par la voix des ministres de l'Évangile, veut faire germer la semence. Et il dépendra de nous que celle-ci devienne un arbre et produise tout son fruit, d'où la parole de saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Quand vous lisez le numéro 16 et 17, qui conclut le premier chapitre de Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église du Concile Vatican II. Dans le numéro 16, il dit précisément qu'il y a plusieurs manières d'adhérer à Jésus-Christ. Une plénière, en plénitude, par les moyens de sanctification et les éléments de vérité que donne l'Église catholique, fondée sur Pierre et les autres apôtres. Mais des moyens aussi, et jusqu'à dire qu'il y a des hommes qui vont se sauver en dehors de toute religion. Les seigneurs le rejoindra, parce qu'ils n'ont pas pu entendre parler de Jésus-Christ. Mais le numéro 17 dit, les hommes sont dans des situations de telle précarité, j'allais dire morale ou spirituelle, dans de telles structures de péché, comme disait saint Jean-Paul II, que leur situation sera tellement précaire qu'il ne faut pas relâcher l'élan missionnaire et que notre devoir absolu, c'est d'annoncer l'Évangile à tous. Vous voyez, le but de l'année jubilaire, c'est de nous faire grandir dans l'Église qui est sainte, dans cette sanctification, par les moyens que nous avons dit, et puis pour annoncer l'Évangile, parce que, comme dit encore Paul VI, l'Église existe pour évangéliser. Et j'ai dit au cœur, et je termine par là, qu'au cœur de ces moyens de sanctification, il y a le sacrement de la réconciliation, qui est lié aussi à ce que l'on appelle l'indulgence. Alors, je sais bien qu'on n'est pas très familier, et on a beaucoup d'idées reçues et de préjugés, et de malentendus, par rapport à l'indulgence. Mais le pape y revient avec insistance. La réconciliation sacramentelle n'est pas seulement une belle opportunité spirituelle, mais elle représente une étape décisive, essentielle et indispensable sur le chemin de foi de chaque personne. C'est là que nous permettons au Seigneur de détruire nos péchés, de guérir nos cœurs, de nous élever et de nous étreindre, de nous faire connaître son visage tendre et compatissant. En effet, il n'y a pas de meilleure façon de connaître Dieu que de se laisser réconcilier par lui, en savourant son pardon. Ne renonçons donc pas à la confession, mais redécouvrons la beauté du sacrement de la guérison et de la joie, la beauté du pardon des péchés. Cependant, comme nous le savons par expérience personnelle, le péché laisse des traces. Il entraîne des conséquences, non seulement externes, dans la mesure où il s'agit des conséquences du mal commis, mais aussi interne, dans la mesure où tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Il redit là tout simplement la foi de l'Église, et c'est une citation du catéchisme de l'Église catholique. Ceux-ci sont éliminés par l'indulgence, toujours par la grâce du Christ, qui est, comme l'a écrit saint Paul VI, notre indulgence. Et le mot indulgence, d'ailleurs, signifie miséricorde. La pénitencerie apostolique publiera les dispositions permettant d'obtenir et de rendre effective la pratique de l'indulgence jubilaire. C'est un élément très important d'un jubilé, voyez. Je mets les pendules à l'heure. Je remets mon âme à niveau. Et je pense aussi aux âmes du purgatoire pour lesquelles nous faisons célébrer des messes. Pourquoi vous faites célébrer des messes pour les défunts? Parce que vous pensez qu'ils ne sont pas complètement, peut-être, entrés dans la plénitude de la vie éternelle, qu'ils ont encore besoin de purification. Vous avez une sainte qui s'appelle sainte Catherine de Gênes, qui a eu des visions du purgatoire, reconnues par l'Église, et qui dit quand l'âme parvient devant Dieu, elle est tellement éblouie par la lumière qu'elle-même, elle se dit « Mais j'ai encore de la rouille dans mon âme, c'est ces traces laissées par nos péchés. Pardonnez, s'il vous plaît, par le sacrement de pénitence, qui me donne la certitude que j'entrerai définitivement dans la gloire de Dieu. » Mais qui se dit par elle-même « J'ai besoin de purification. » Un acte d'amour de l'âme qui se dit « Je ne peux pas entrer dans la lumière de Dieu sans cette purification. » Mais je ne peux plus me purifier par moi-même parce que je ne mérite plus une fois que je suis passé de l'autre côté. J'ai besoin de la prière, de suffrage, de mes frères. C'est un acte de charité que de faire célébrer des messes. Est-ce que vous faites célébrer des messes pour vos défunts? En donnant même une petite offrande qui manifeste, qui n'est une messe à pas de prix, hein, mais qui manifeste votre participation. Est-ce que vous faites célébrer des messes pour vos défunts? Est-ce que vous priez pour vos défunts? C'est important, ça. Ben voilà, on le fait parce que cette messe peut obtenir cette miséricorde de Dieu. Allez, je remets la dette et tu peux entrer dans le royaume des cieux. C'est magnifique. Et on peut le faire pour nous-mêmes. Obtenir l'indulgence pour nous-mêmes. Faire cette démarche pour être remis à niveau. Bon, je m'arrête. Donc, vous relirez ça avec vos prêtres, hein, vos curés qui vous redonneront cette belle bulle d'indiction, Spes non confudit, qui nous fera rentrer dans l'espérance, donner des signes d'espérance, moyennant cette démarche de conversion et de réconciliation. Je vous ai dit ce que le pape François nous dit pour cette année jubilaire. Amen.